Lors de la chronique de l'OBVT, au bout du fil, on a Simone Pinchot-Boulet de l'OBVT. Bon matin.
Bon matin, ça va bien?
Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, tu viens me parler de la compensation environnementale de milieux humides, un peu de ce qu'on a parlé depuis les derniers mois. C'est un petit peu complexe et on débute par un peu de droit ce matin, Simone.
Exactement. On va y aller tranquillement, là. Ça va bien aller, comme on dit.
Oui.
Oui, donc un peu de droit, là. Ça bouge beaucoup en droit de l'environnement dans les dernières années. Okay. En 2017, l'Assemblée générale a adopté la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. L'objectif de cette loi, c'est de freiner la destruction des milieux humides au Québec en appliquant le principe d'aucune perte nette. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce principe-là? Mais en d'autres mots, on vise aucune perte des milieux humides au Québec. Et maintenant, si on détruit un milieu humide, on doit payer une compensation monétaire qui servira à créer des nouveaux milieux humides. Donc, aucune perte.
D'accord.
On se comprend?
Oui.
Il faut savoir que la compensation financière, c'est un dernier recours. Le gouvernement impose avant, par exemple, dans le développement d'un projet immobilier, par exemple, qu'on cherche premièrement à éviter la destruction, si c'est pas possible, de minimiser la destruction d'un milieu humide, puis encore là, si c'est pas possible, là, on va aller à la compensation financière qui servira à créer des nouveaux milieux.
Mais justement, pourquoi s'attaquer à la perle de milieux humides, Simone?
Oui, premièrement, on sait, là, les milieux humides, hydriques, il y a des services essentiels à la population. On en a parlé souvent, là, donc la protection contre les inondations, la protection contre l'érosion, la séquestration de carbone, j'en parle. Par contre, on observe quand même une perte de milieux au Québec. Puis il faut savoir qu'avant d'adopter la loi, le gouvernement a mené une grande enquête là, en faisant des photos aériennes et a observé une perte de milieux qui se fait petit à petit, là, sans vraiment qu'on soit mis au courant, donc sans autorisation. Puis une fois que c'est fait, cette perte-là, ben c'est fait. Là. On a beau compenser, on peut pas recréer, par exemple, une tourbière qui a mis des milliers d'années à se créer. Tu sais.
C'est plus difficile.
Oui, c'est ça. Puis à travers l'enquête, le gouvernement a vu que les causes des pertes n'étaient pas nécessairement de celles qui s'attendaient. Là, je parlais de développement immobilier tout à l'heure. Mais ce secteur-là est seulement pour 5% des pertes des milieux. C'est plutôt le secteur agricole qui prend une... dont la cause est, dont les causes des pertes est principale.
D'accord. Mais justement, en quoi la perte des milieux naturels, c'est un enjeu important là-dessus?
Ben c'est ça. Au Québec, c'est facile de dire « Ah, les milieux naturels... »
Il y en a plein.
On en a plein. Ouais. Il y en a plein autour de nous. C'est très agréable, d'ailleurs. On est entouré de milieux, donc on n'a pas l'impression, quand on les détruit, qu'on sent pas l'urgence. Mais ces pertes-là qui se font petit à petit s'additionnent. Puis on arrive à des situations, à un territoire... Là, c'est plus dans le sud du Québec. Nous, on est chanceux ici. Un territoire a perdu 30% de ses milieux humides, 40%. Ben là, si on parle de Montréal, c'est 85%, avec tous les problèmes locaux que ça occasionne. Ouais. On pense encore aux inondations, de plus en plus importantes, mais aussi aux problèmes mondiaux, là. Moi, je pense aux tourbières qui sont en grande quantité dans la région, dont l'ensemble qu'on trouve sur la planète séquestre 33% du carbone planétaire, mais ces tourbières-là représentent seulement 2,8% des terres, de la Terre.
C'est minime.
C'est minime, mais ça séquestre tellement de carbone, donc c'est tellement important de conserver ces milieux-là en particulier. Puis, il faut savoir que la plus grande pression qu'on met sur la planète, c'est pas la pollution, c'est important, mais c'est pas la pollution, c'est vraiment la destruction des milieux naturels qui amène un immense éventail de problèmes. Donc, si on n'agit pas, là, on peut se demander jusqu'où vont aller les pertes, puis jusqu'où vont aller les problèmes qui s'en suivent. Donc, en réaction à tout ça, bref, là, la nouvelle loi a été adoptée, ce qui fait qu'avec les compensations, en janvier 2020, le ministère de l'Environnement avait amassé 47,5 millions de dollars pour grâce aux compensations financières, là. Puis, comment ça marche, c'est que les compensations financières qui sont basées sur différents facteurs, là, donc la rareté des milieux humides dans le secteur ciblé, leur superficie, bénéficient aussi. Les montants amassés vont servir à financer un programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques auprès des MRC. Donc, c'est les MRC qui vont s'occuper d'aménager les nouveaux milieux ou de sous-contracter pour aménager les milieux.
Mais là, cette loi-là ne fait pas seulement que des heureux, là. Il y a, surtout chez les agriculteurs, dit-on.
Pas seulement des heureux, il y a pas mal de problèmes là, chez les agriculteurs, mais on peut le comprendre parce que les agriculteurs ont besoin d'une grande superficie pour faire leur culture. Puis, un problème qu'on observe avec une agriculture de type monoculture, là, donc un peu conventionnelle, on cultive une seule chose sur une grande superficie de terre, on remarque que ça épuise peu à peu les sols qu'on cultive. Donc, pour pallier à ce problème, on le comprend, les agriculteurs ont une plus grande superficie de terre qu'ils mettent parfois en jachère, puis aussi, ils peuvent se garder en réserve des milieux humides qui comptaient défricher, par exemple, pour cultiver. Par contre, avec la nouvelle réglementation, avec les compensations, les compensations représentent des trop gros montants pour que ça vaille la peine là, de défricher pour cultiver. T'sais, on parle de plusieurs millions de dollars en compensation. Là. Donc, du côté du gouvernement, on dit, nous, on veut aucune perte nette de milieu humide, mais de l'autre côté, les agriculteurs disent, si on veut des légumes du Québec au Québec, il faut avoir accès à des terres fertiles. Puis pour avoir accès à ces terres fertiles-là, des fois, il faut détruire les milieux humides. Par contre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, ou les auditeurs sont comme moi, mais je me pose une question par rapport à ce grand débat-là. Si on sait que l'agriculture qui se fait dans le sud du Québec, par exemple, appauvrit les terres, puis pour pallier aux problèmes, il faut détruire les milieux humides, avec tous les problèmes que ça occasionne à long terme puis à court terme, je me demande, on tasse pas le problème un peu plus loin pour que ça nous retombe dans la face peu plus tard.
Qu'est-ce qui est le mieux, finalement, dans tout ça, là, tu sais, là?
C'est un peu plus, là, tu sais, si on détruit des milieux humides qui ont mis des milliers d'années à se créer pour continuer une agriculture qui appauvrit le sol, on n'est pas plus avancé.
Ça, c'est sûr.
Même que il y a des experts qui s'entendent pour dire que si on fait rien dans le sud du Québec, la belle terre noire si fertile qu'on a aussi au Témiscamingue, dont plusieurs maraîchers utilisent, elle pourrait disparaître d'ici 50 ans.
No.
Les maraîchers disent, si on ne produit pas des légumes ici, les légumes vont venir de Californie, ça implique aussi des problèmes environnementaux. Je suis parfaitement d'accord, donc en sachant ça, on jase là.
Il y a toujours deux côtés de médaille, disons. Hein?
Oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin puis revoir la façon de faire l'agriculture au Québec, d'encourager une agriculture qui a moins d'impact pour l'environnement, même un impact positif pour les milieux humides et des... Mais bref, je m'en vais dans un autre sujet, puis je vous propose qu'on se donne un rendez-vous là, le mois prochain pour qu'on se parle un peu plus en détail de ça.
Il n'y a pas de problème, ça n'a pas de problème. C'est exactement parce qu'on pourra en parler pendant toute la journée, probablement.
Oui, c'est ça. C'est un sujet qui me passionne. Je ne sais pas si ça paraît.
Ça paraît juste un petit peu, Mme Pinchot. C'est le fun d'être une passionnée.
Merci.
Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour ces éclaircissements en passant.
Merci à vous.
À la prochaine. Bye-bye.